Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 33 du Dédomiseur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous continuez à suivre le podcast de manière quand même assidue, bon, en fait à votre rythme. Je sais qu'il y a du monde qui en écoute genre 10 en ligne, puis après ça sont un bout sans checker, puis il y en a d'autres qui suivent à chaque semaine selon leur habitude. Je veux juste dire qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'il y avait un petit problème avec Apple Podcast, je crois. Là, il y avait comme... quand vous pesez sur play, ça redécolle ou ça skip à l'autre chanson. Je sais pas si c'est un problème interne à Apple Podcast, mais en tout cas, j'en ai parlé aux gens qui s'occupent de la technique à Radio Pirate. Donc peut-être que ça va être corrigé dans les prochains jours, semaines, mois, j'en ai aucune idée. Entre-temps, vous pouvez toujours aller voir sur Spotify pour suivre le podcast. D'ailleurs, on a eu encore quelques updates au niveau des statistiques. On a doublé pratiquement la cote d'écoute depuis un mois et demi, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Je vous remercie de me suivre puis de me faire confiance, parce que, tu sais, si je me rendais compte que je parlais juste pour que ma blonde m'écoute puis que deux, trois amis m'écoutent, ça me ferait... Tu sais, je le ferais peut-être pareil, parce que c'est le fun de jaser, mais, tu sais, ça m'encouragerait pas tant que ça pour continuer, mais là, ça m'encourage vraiment, les chiffres sont au rendez-vous... Les mails sont au rendez-vous, les commentaires sont au rendez-vous, donc merci toujours de partager et puis de continuer comme ça. Hey, cette semaine, je suis tombé récemment sur YouTube sur une émission dont je connaissais pas l'existence. C'est Brian Johnson, le fameux gars de AC/DC, hein, qui a remplacé le premier chanteur, qui a une émission, je crois, c'est sur... faudrait que je vérifie le channel où ça passe, mais vous pouvez voir les bandes-annonces sur YouTube, ça a l'air super nice, et puis ça, dans son prochain épisode, j'ai vu la bande-annonce, il fait des interviews avec plein de monde, et puis cette semaine, c'est Robert Plant. Donc, je vous avais parlé, il y a quelques podcasts, un peu de la carrière de Robert Plant, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait, puis il est pas juste connu pour avoir été chanteur dans Led Zeppelin, fait que je vous fais écouter un petit bout de la bande audio.
I'm in Wales, and I'm here to meet a man who was a titan of the rock stage. In the 1970s, his band took touring to heights and excesses never reached before. As a solo artist, he's traveled the world to explore the roots of music. I'm talking about none other than the legend that is Robert Plant.
I came up here after Led Zeppelin 2, which we recorded mostly on tour.
Yeah.
Because we played in America so much at that point in time.
You were, yeah.
With Maureen and my daughter Carmen and a dog called Strider. And we rented the cottage that I used to go to when I was a kid, which is not far from here. And we began the writing of Led Zeppelin 3 up there.
Yeah.
And it was great because it was such a sort of... It was so far away from... the chaos of touring, you know what it's like. Christ, you guys, you kept going. We had to stop.
Right.
You know, so you know what it's like. So the idea of going from those gigs that you know about, where it's complete turmoil and like energy like that, to come to these kind of places, gave us the kind of, I suppose, the foundations for Led Zeppelin 3, which was much more pastoral.
Yeah.
And acoustic based.
Donc c'est ça, Brian Johnson, il va faire ce show là. Vous pouvez trouver ça sur Internet, là, chercher Brian Johnson on the way to road, je crois que ça s'appelle. Et si vous voulez avoir une idée des artistes qu'il va recevoir là-dedans, on va avoir Sting, on va Joe Elliott, on va Lars Ulrich, Nick Mason, Billy Joel, Joe Walsh, Dolly Parton, Mark Hoffner, Paul Rogers et Mick Fleetwood. Donc ça va être quand même un gros line-up, donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner... Au niveau du show, mais je pense que ça va être quelque chose d'intéressant parce que la bande-annonce, moi, en tout cas, me donnait quand même assez le goût de voir l'épisode. Puis c'est drôle quand on écoute parler Robert Plant. Tu sais, des fois, il y a des chanteurs comme... mettons, vous écoutez une entrevue de Geddy Lee, ce que vous allez entendre, c'est une grosse voix comme ça qui parle, puis on a enregistré cet album-là avec Rush. Puis quand il se met à chanter, ben t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est foiré testicule dans un étau. Ben là, tu sais, ça fait tout le temps un peu spécial, mais quand t'écoutes Robert Plant parler, c'est vraiment la voix, t'as l'impression vraiment d'entendre la voix de Led Zeppelin. T'as l'impression de l'entendre chanter Stairway to Heaven juste quand il parle, donc ça m'a tout à fait un peu drôle là-dessus. Et dernière petite nouveauté musicale, la semaine passée, ou en tout cas, podcast, il n'y a pas de notion temporelle nécessairement, mais je vous ai fait entendre le duo entre Post Malone et Ozzy Osbourne, puis j'ai trouvé une interview de lui où il dit que ce duo-là l'a vraiment sorti de son espèce de déprime qu'il avait relativement à son accident qu'il avait eu, comme je vous avais dit, en convalescence pour l'année. Il savait plus trop s'il avait le goût, puis mais il dit que ça lui a vraiment redonné le goût de faire de la musique, et puis normalement il aurait enregistré un album, je crois c'est en 4 semaines, en tout cas dans un sprint assez efficace, puis il s'attend à ce que ça sorte d'ici la fin de l'année, je crois. Donc on va avoir un nouvel album, le premier en presque 10 ans, donc Scream, ça remonte à 2010, puis on a 13 avec Black Sabbath qui remonte à 2013 ou 2014, là, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau matériel là-dessus. Habituellement dans le podcast, j'essaye de faire en sorte que si vous écoutez le podcast dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 10 ans, les sujets soient encore intemporels, c'est-à-dire qu'ils puissent être intéressants pour vous. Mais j'ai pas nécessairement le choix de parler de l'histoire du scandale alentour de Justin Trudeau et de son fameux blackface, mais je vais l'amener d'une certaine manière que je pense que ça va pouvoir être écouté dans les années qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre. Donc, on commence en écoutant un petit extrait de Don Martin, qui est un présentateur télé à CTV News, qui lui avait prévu un peu tout ce scandale-là autour des libéraux.
Time for the last word. It was a week the Liberals' fixation with political correctness became politically incorrect. Amid a clear meltdown in Liberal government poll support, new moves on gender and tolerance issues were met by a head-shaking, eye-rolling, derision-snorting reaction from a public fed up with the excess of it all. The government's proud plan to fire up road trip consultations on racism with an eye to infusing every policy with anti-discrimination measures was quickly put on ice. Quebec MPs and the Liberal caucus sounded the alarm about the perils of cross-Canada hearings whipping up Islamophobia or worse. And then that bizarre Service Canada decree to ban gender-specific terms like father or mother or Mr. or Mrs. from all telephone communications had the government doing backflips to insist the policy had been refined. The message finally seems to be getting through. Justin Trudeau has become so identified with kumbaya, people kind priorities that he's lost the appearance of leading a serious government.
Donc ça, c'était Don Martin il y a 1 an, je crois, c'est peut-être un petit peu plus qu'un an, 1 an et demi, sur CTV News qui avait dit ça. Il avait dit, vous savez, la politique libérale du politiquement correct va à un moment donné leur nuire et est en train de leur nuire parce que personne n'est blanc dans tout ça, dans cette histoire. Personne n'est blanc comme neige, personne n'est épuré de tout soupçon, de tout problème. Puis c'est ça un peu le problème, puis c'est l'angle avec lequel moi je l'amène, parce que je sais que beaucoup de gens, j'ai entendu plusieurs réactions, beaucoup de gens ont dit « Ouais, mais ça n'a pas rapport, là, c'est pas si grave que ça. » Puis d'un côté, des gens qui le défendent, et de l'autre côté, des gens qui ne l'aiment pas, qui disaient « Bah, t'sais, c'est pas si grave que ça, là, si c'était quelqu'un avec des idées qu'on aime un peu plus, on le défendrait, donc t'sais, on est obligé par rigueur intellectuelle de le défendre aussi. » Mais en réalité, je pense que vous saisissez pas totalement l'impact que ce geste a, que ce geste-là a, dans le sens où les apôtres du politiquement correct sont un peu comme les curés de la modernité, hein. C'est une manière de censurer le discours en société, c'est une manière de dicter le bon goût. C'est des gens qui vont mettre à l'ordre du jour ce qui est acceptable d'être dit ou de ne pas être dit. Puis si vous sortez de ce cadre-là, ben vous êtes suspecté de, tu sais, vous avez quelque chose de suspect, là. Donc si vous utilisez Par exemple, si vous dites de quelqu'un que c'est un sourd au lieu d'un malentendant, t'sais, on suspecte que vous manquez probablement de respect envers les gens, donc vous êtes quelqu'un d'un peu infréquentable, donc vous êtes, là je prends un exemple un peu banal, mais c'est toujours un peu ça. Et puis Justin Trudeau, ben il s'est fait connaître comme étant le champion de tout ça. T'sais, je vais vous faire entendre des audios dans les prochains instants. Justin Trudeau est le champion du politiquement correct. C'est presque qu'on croirait que c'est lui qui a inventé ce terme-là. C'est un peu comme un curé qui fait l'apologie de la chasteté, l'apologie de pas de sexe avant le mariage, l'apologie que la masturbation, ça rend sourd, l'idée que, tu sais, telle affaire, c'est péché, puis là, quand vous n'avez pas boire d'alcool, pas faire ci, pas faire ça, puis là, ben, quand vous arrivez à l'église, un peu à l'improviste, vous rentrez par la porte du presbytère, c'est plein de bouteilles de vin vide dans l'entrée, puis vous dites, ouais, ok, c'est parce qu'il m'a dit que l'alcool, c'était mauvais, puis quand vous ouvrez la porte principale, ben, il est en train de rentrer un cierge pascal dans le derrière de la bonne sœur qui est là. Là, vous dites, ouais. Finalement, le message, c'est un peu rempli d'hypocrisie là-dedans. Ben, c'est ça qui est mis au grand jour dans cette histoire-là. C'est l'hypocrisie du personnage, c'est l'hypocrisie de la chose. Parce qu'on s'entend, là, le geste comme tel est déplacé. C'est sûr que c'est déplacé, mais il n'y a pas de quoi démissionner ou il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi capoter avec ça. Donc, on va entendre un peu c'est quoi Justin Trudeau, comment lui voit ça, le politiquement correct.
I think being a feminist is the right thing to do, but it's also the smart thing to do. And
maternal love is the love that's going to change the future of mankind. So we'd like you to look
We would like to say people kind, not necessarily mankind, because it's more inclusive.
There we go, exactly. Yes, thank you.
We can all learn from each other.
Écoutez, si à condition que vous m'écoutiez, madame. Vous avez quelque chose à dire, madame? Allez-y. Oui. OK. Madame. Cette intolérance par rapport aux immigrants, ça n'a pas sa place au Canada. Cette intolérance par rapport à la diversité, vous n'avez pas votre place ici. Madame, le Canada a été bâti par des vagues d'immigration qui ont été accueillies par les Premières Nations et à qui nous ont montré comment bâtir une société forte. Et les gens qui viennent ici de génération en génération pour bâtir des communautés plus fortes, c'est ça qui fait de nous plus forts comme pays. Et madame, votre intolérance n'a pas sa place ici.
Dans le dernier extrait, il est presque en transe, là. C'est, ça a pas de maudit bon sens, là. Donc, il y a tout dans ces 3-4 extraits-là que je vous ai découpé puis que j'ai mis, bout à bout. C'est-à-dire que le premier extrait, c'est on lui demande, qu'est-ce que tu penses du féminisme, que t'es féministe, tout ça. Il dit, oh, oui, moi, je suis féministe, puis non seulement je le suis, je pense que c'est vraiment la chose la plus intelligente à faire. Sous-entendu, ceux qui s'opposent à ça, c'est des caves. Puis du monde qui comprennent pas la cause des femmes ou whatever là. Donc c'est ça. Donc ça c'est premier aspect. Il veut s'assurer d'être aimé des groupes de femmes, des groupes de pression des droits des femmes. Donc lui il dit oh oui je suis féministe. Ceux qui le sont pas c'est des gros caves. Deuxième extrait, c'est une jeune fille qui est dans une espèce de speech de Trudeau, elle pose une question, puis on se fout un peu du sujet, mais bref, elle dit « Ouais, c'est ça, c'est important pour le mankind », tu sais, qui est une expression, là, qui a pas du tout une connotation masculiniste ou de suprématie des hommes par rapport aux femmes. Lui, il la reprend, il dit « Non, hey, c'est pas mankind, ça va être people kind, parce que c'est beaucoup plus inclusif. » Donc lui, l'inclusivité, c'est très important, faut pas discriminer les autres, pas ci, pas ça. Et puis le troisième extrait, c'est dans une autre conférence, mais là, c'est au Québec, cette fois-là, fait un genre de point de presse, il y a des gens qui sont invités, puis il y a une vieille madame, là, qui a l'air un peu intolérante, qui vient de... qu'on sait pas trop d'où elle vient, puis effectivement, elle pose sa question de manière crue un peu, mais cette question-là n'est pas nécessairement une question qui devrait être... tu devrais avoir le droit de poser ce genre de question-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passés par le chemin Roxham, donc qui sont des immigrants illégaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait de demande d'immigration, qui passent les frontières à pied de manière illégale, et puis ça, ben ça a coûté de l'argent, notamment au Québec, parce que le chemin est au Québec, donc les gens, c'est le gouvernement du Québec qui s'occupe d'une certaine quantité de tu sais, loger ces gens-là, s'occuper d'eux autres, etc., etc. Et puis, là, ben, ce qui arrive, c'est que ça a coûté de l'argent. Et puis là, ben, il y avait une négociation entre le fédéral et le provincial pour savoir qui va payer. Puis la bonne femme, ben, de manière un peu maladroite, elle demande qui va payer pour ça? Est-ce que vous allez rembourser le Québec? Madame, vous êtes intolérante. Hey, ça n'a pas sa place. Tu vois qu'il vient complètement hors de lui. Là. Il perd les pédales complètement. Puis là, ça lui fait dire un certain nombre de niaiseries. Là. D'ailleurs, le bout où il dit que les nations autochtones étaient très contents d'accueillir les Européens qui sont arrivés puis qui ont colonisé l'Amérique du Nord, je sais pas, faudrait peut-être lui demander. Hein. Jamais, ça serait le fun que tu parles pas à leur place, parce que moi, je pense pas qu'elles sont si contents ça qu'on soit venu ici, mais ça, bon, ça reste mon... Ah oui, puis là, ils nous ont montré à être des nations plus fortes. Tu sais, c'est un paquet de... C'est un paquet d'inepties, puis en plus, il finit en disant à la dame, vous n'avez pas votre place ici. Tu sais, le gars, il est presque prêt à déporter à Guantanamo, parce qu'elle partage pas, selon lui, ses idées politiques. Mais malgré tout ça, ce personnage-là se permet de faire la morale, se permet de reprendre des gens sur des mots. C'est-à-dire, ah non, ben pas mankind, people kind. Donc ce gars-là se permet d'administrer sa médecine politiquement correcte à qui veut bien l'entendre. Donc il a dit que Scheer, c'est un peu un monstre parce qu'il aurait, à un moment donné, dit qu'il était contre le mariage gay il y a genre 20 ans. Mais lui, par contre, ça, c'était une erreur de jeunesse, hein, son fameux blackface. J'ai lu dans des médias français qu'il disait qu'il avait fait ça quand il était adolescent. Donc, je veux juste vous dire que quand il a fait ça, il avait presque 30 ans. Là. Donc, c'est mon âge. Donc, j'ai pas. Moi, si je fais ça, je pense que je vais être pris comme un adulte et non comme un adolescent. T'sais, l'adolescence, je sais que dans certains cas, ça se finit tard, mais à 30 ans, on n'est pas un adolescent. Donc, c'est ça. Il a essayé de. Essayer de se cacher un peu de ça. Puis là, finalement, son excuse, ça a été que, ah, comme il fait partie de la majorité blanche, ou je sais plus trop comment il a dit ça, dans le fond, il faisait partie d'une culture là, qui était systématiquement intolérante et raciste. Donc, tu sais, il s'en est pas rendu compte parce qu'il était imbibé de cette culture-là. Puis, c'est un paquet de bullshit, là. Si vous cherchez un peu sur l'histoire du blackface, ça fait très longtemps que c'est assez mal vu, puis tu sais, je comprends que des gens qui ont fait ça par ignorance, là, tu sais, moi, si vous, mettons, quand j'étais, je l'ai jamais fait, mais quand, mettons, j'étais enfant, si je m'étais déguisé en Will Smith, mettons, ou je m'étais déguisé en Martin Luther King, puis je m'étais peinturé en noir, tu sais, à 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu sais même pas ce que veut dire le mot blackface, donc évidemment que ça a pas de connotation raciste à ce moment-là, c'est évident, là. Les enfants n'ont pas cette conscience-là, puis c'est pour eux autres, ils se déguisent en un personnage qu'ils aiment, puis c'est comme ça, c'est tout, mais je veux dire, un gars de 30 ans, qui en plus se prétend être une espèce d'apôtre du politiquement correct, t'sais, dans le fond, lui, il fait la morale à tout le monde, et puis il est un genre d'exemple à suivre, là. Donc c'est d'autant plus étrange que sa justification, c'est que « Ah, mais je savais pas, je m'excuse, là, je voulais pas faire ça, je pensais pas que ça allait blesser des gens. » Puis tu sais, il l'a pas fait une fois, là, il l'a fait 3-4 fois, là, de ce qu'on sait. Là. Fait que probablement qu'il y a d'autres affaires qui sont cachées, qui vont peut-être sortir éventuellement à un moment donné. Puis... j'ai entendu des gens dire que, tu sais, ah, le blackface, ça a un historique américain de racisme au Canada, c'était pas comme ça, tu sais, on n'a pas d'histoire reliée à ça. Oui, on a une histoire reliée à ça. Ça, c'est un paquet de mensonges qui a été raconté, entre autres, notamment, relativement à cette histoire-là. Donc, si je vous dis Calixa Lavallée, qu'est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, Calixa Lavallée, c'est le compositeur du Haut-Canada, donc l'hymne national canadien, qui a été composé il y a très longtemps, et lui, il a fait une partie de sa carrière en performant en blackface. Donc le gars qui a créé l'hymne national, il portait souvent des blackface, puis il faisait des spectacles avec des groupes de minstrels américains. Donc les minstrel shows, ça, je savais pas exactement c'est quoi, j'ai fouillé un peu pour vous autres, c'était des spectacles aux États-Unis vers le milieu des années 1800. Donc, 1820, 1830, jusqu'à la fin des années 1800, il y a les Minstrel Shows. C'était des genres de shows de chant, de danse, de musique, où il y avait des comiques, un peu des humoristes, des amuseurs publics, si vous voulez. Et c'était d'abord interprété par des acteurs blancs qui se faisaient des blackface, donc ils se noircissaient le visage et souvent le corps. Puis après la guerre de sécession où l'esclavage a été aboli, les rôles ont été interprétés par des noirs eux-mêmes. Donc, il y a une série d'événements hein, qui rappellent des scandales de blackface, parce que l'histoire de Trudeau, c'est pas du tout c'est pas du tout un événement isolé là-dedans. Donc, en 2012, je crois, et 2011, j'avais deux joueurs de hockey, donc Tyler Bozak et Rafi Torres, qui ont eu des incidents reliés à ça parce qu'ils se sont déguisés à l'Halloween dans des célébrités noires. Je me souviens plus exactement c'était qui, mais bon, ils se sont fait photographier en blackface. Et puis les deux ont eu toutes sortes de problèmes dans ces deux années-là, 2011 et 2012. Rappelez-vous le bye-bye, je crois c'était en 2014, si ma mémoire est bonne. Donc il y avait une personne en blackface pour interpréter le rôle de Piqué Souban, hein, l'ancien défenseur du Canadien. L'année passée, il y a le rappeur Pusha T, bon, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a fait un blackface pour imiter ou pour représenter Drake. Donc, le musicien canadien. Ça aussi, ça avait fait assez scandale. En 2007, il y a un professeur d'un high school à Charlottetown qui a porté un blackface et qui a eu toutes sortes de scandales avec ça. Je sais pas s'il a dû démissionner, mais je sais que ça avait créé toutes sortes de problèmes au niveau de la... Je sais pas là-bas exactement si c'est des commissions scolaires ou des regroupements d'écoles plus indépendantes, mais je sais que ça avait créé toutes sortes de problèmes parce que c'était une vidéo qui avait été ressorti où le gars imitait, dans le fond, un de ses collègues qui était un Canadien d'origine africaine ou haïtienne, mais dans le fond, un Canadien noir. En 2013, il y a la Ontario Peel's District School Board. Donc, on lançait une espèce d'enquête sur leur directeur adjoint dans la Caledown High School parce qu'il se déguisait en blackface pour interpréter Mr. T à l'Halloween. Donc, c'est un peu... C'est plein d'affaires, dans même j'en ai d'autres. Là, regarde, ça finit plus. Si vous cherchez sur l'histoire du blackface, vous allez vous rendre compte que ça finit plus au Canada, les histoires de scandales relativement à ça. En 2009, un autre scandale à l'Université de Toronto, des étudiants qui portent un blackface à l'Halloween pour se costumer comme le genre des Jamaïcains, un peu comme dans le film Cool Running, là, où il y avait des Jamaïcains là-dedans, donc ils se peintent sur la face en noir, puis ils trouvent ça drôle, puis tu sais, c'est des étudiants à l'université, là, c'est pas genre Joe Blow dans le fin fond d'un rang quelque part perdu dans une région éloignée. Non, c'est des étudiants à l'université. Et en politique, il y a eu d'autres. Hein, l'histoire de Trudeau n'était pas la première. Donc, en 2013, il y a un politicien provincial de Nova Scotia. Donc, c'est un monsieur qui s'appelait Joachim Strunk. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Mais lui, pour Noël, il s'était fait un blackface. Donc, on dirait que ça finit plus. Là. Lui disait, ouais, mais tu sais, c'était une pratique chez nous, parce que lui est d'origine allemande. Il disait, ouais, mais chez nous, on faisait ça, tu sais, c'était culturel, je le savais pas. Lui, il s'était interprété un personnage quelconque là, dans un film allemand, je crois, ou dans une pièce allemande. Donc, ça finit plus comme ça. J'en ai des exemples. Là. En voulez-vous, n'en v'là, il y en a plein, ça finit plus. Si on parle un peu du concept comme tel, donc l'origine du blackface, ça demeure assez inconnu. J'ai essayé de fouiller un peu là-dessus. On pense que ça remonte probablement jusqu'au Moyen-Âge, mais certainement on sait que c'est dans le théâtre, ça remonte. Par exemple, dans une pièce de Shakespeare qui s'appelle Othello ou Le Mort de Venise, qui date de début 1600, il y avait des comédiens qui devaient se mettre en blackface pour interpréter les rôles. Est-ce que ça avait la signification que ça a eu par la suite à l'époque? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que ça nous montre un peu le danger de revenir très loin en arrière pour s'intéresser à des personnages historiques, parce que le concept même de retour en arrière comme ça crée des problèmes. Comment je pourrais dire ça? C'est des problèmes d'ordre logique. T'sais, si vous allez revoir, la plupart des gens, bon, qui ont un respect pour Shakespeare, les grandes pièces de théâtre, Hamlet, le Marchand de Venise, etc. Ouais, mais si vous cherchez chez Shakespeare, vous allez vous rendre compte que tout ce que la modernité déteste, c'est présent chez lui. Donc, le machisme, le sexisme dans ses pièces de théâtre, l'antisémitisme. Donc, le Marchand de Venise, c'est l'histoire d'un marchand juif qui est un peu un escroc. Donc, c'est antisémite. Puis là, ben, c'est raciste parce qu'il y a du blackface là-dedans. Mais faut se remettre en contexte. Faut être prudent. C'est l'époque. Les standards moraux étaient différents de ceux. De ceux d'aujourd'hui, puis justement aller jusqu'à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, l'idée de le théâtre était un lieu où on de manière volontaire, on caricaturait, c'était comme du théâtre caricatural, si vous voulez, donc le blackface s'inscrivait dans une manière de caricaturer les peuples, on va dire noirs, là, les soit les Haïtiens, les Afro-Américains ou les Africains ou partout où il y a des gens à la peau noire, mais si c'était des pièces qui mettaient en scène un juif, ben là, il allait être calculateur, il allait être un peu à l'argent. Puis si c'était un Irlandais, on allait le peindre comme un alcoolique puis un bagarreur. Si c'était un Italien, on allait dire, bon, c'est un genre de paresseux. Si c'était un Allemand, on allait dire, c'est un alcoolique puis un violent ou tu sais quelqu'un qui est froid puis qui a pas trop d'émotions. Si c'est un paysan, ben là, on allait dire que c'est un peu un idiot, c'est un peu un sous-éduqué. D'ailleurs, ça c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a encore le droit de faire ça, hein, tu sais, rire des paysans puis des gens qui viennent des milieux ruraux, ça y a pas de problème. Donc c'est encore toléré. Pour combien de temps, on le sait pas, mais ça l'est encore. Donc le blackface, c'est même présent dans les films à au moins jusqu'à la fin des années 30. Ce qui est intéressant quand même parce que vers la fin des années 30 aux États-Unis, la pratique du blackface commence à disparaître. Donc quand Justin Trudeau, dans sa défense, dit « Ouais, mais moi c'était en 2002 que j'ai fait ça, ou 2001, tu sais, dans ce temps-là, c'était correct de se déguiser en noir puis se faire des blackface », tu sais, l'utilisation du blackface a commencé à décliner aux États-Unis pour des raisons de discrimination raciale à partir des années 30, là. Donc ça fait pas ça date de très longtemps là, que ça a commencé à être assez mal vu. Toute cette histoire-là nous amène un peu au thème du politiquement correct, qui est un thème que je voulais aborder depuis assez longtemps. Je le ferai pas de manière très longue aujourd'hui parce que je veux vraiment à un autre moment donné faire un podcast complet là-dessus, peut-être en faisant une espèce de revue du livre de Bocoté là-dessus qui s'appelait L'Empire du politiquement correct ou quelque chose comme ça, j'oublie le titre exact. Mais c'est un peu dans la lignée de quand on avait fait le podcast sur George Orwell et 1984 et toute la notion de la novlangue et tout et tout ça, parce que le langage du politiquement correct, c'est quelque chose qui aseptise les sociétés, puis c'est quelque chose qui rend de plus en plus difficile de dire les choses telles qu'elles sont, puis ça me semble quand même problématique de plus en plus d'aller dans cette voie-là, parce que c'est vraiment une tangente que pris nos sociétés modernes où, dans certains cas, on peut dire « Ok, je comprends, ce mot-là, ça blesse des gens, on va arrêter de l'utiliser. » Mais dans d'autres cas, c'est l'utilisation abondante de périphrases, puis de nouveaux mots, puis d'euphémismes pour décrire un peu tout et n'importe quoi, pour être sûr de pas blesser personne. Ça devient une manière d'essayer d'aseptiser, justement, puis de rendre fade la société, de la rendre sans couleur, sans saveur, sans absolument rien, ce qui, à mon avis, est un problème. Donc, si on définit un peu ça, tu sais, le politiquement correct, on se rend compte que ça désigne un discours puis des comportements qui sont perçus d'une certaine manière pour réduire les chances ou les possibilités d'offenser ou d'outrager un groupe de personnes ou une communauté. Donc, à la base, on va dire, bon, ok, c'est un espèce de compromis qu'on fait pour ne plus outrer une certaine partie de la population, ou du moins en public. Parce que c'est ça qui est très drôle avec le politiquement correct, c'est que j'ai toujours trouvé que c'est un discours très hypocrite, au sens où, tu sais, dans le privé, les gens utilisent toujours les mêmes mots qu'ils utilisaient, mais c'est que dans le public, alors on va se donner une espèce de vertu morale et de on va épurer notre discours, tu sais, pour bien paraître. Puis je pense que c'est l'exemple de Trudeau est patente de tout ça. Je suis sûr que ce gars-là, dans le privé, n'utilise pas l'expression « people kind », hein, tu sais. Et ben tu sais, s'il était prêt à se peinturer la face en noir pour faire rire du monde dans un party, je pense que d'après moi, en privé, il doit s'exprimer. On serait assez surpris d'entendre comment il s'exprime dans sa vie privée. Ça évidemment, comme à peu près toutes les courants de pensée, ça nous vient de l'Angleterre et des États-Unis. Donc ça a commencé avec des trucs très très banal, comme par exemple, on a commencé à utiliser le mot line worker au lieu de lineman, donc les monteurs de chaîne qui travaillaient dans des usines, ils ont commencé à dire, ah ben là, il y a le mot homme là-dedans, lineman, mais c'est pas juste des hommes qui travaillent dans des chaînes de montage, il y a aussi des femmes, donc on va appeler ça le line worker. On a commencé à utiliser des mots comme chairperson au lieu de chairman. Donc, tu sais, quand on dit North Korea Chairman, donc c'est la personne qui occupe le rôle du leader ou du président, c'est une expression anglaise et américaine pour désigner un dirigeant. On a commencé à utiliser aussi l'appellation American Native ou Native American plutôt que Indien, Amérindien, Autochtone, les mots que vous voulez par rapport à la situation des Autochtones d'Amérique du Nord. L'une des critiques que moi je fais du politiquement correct, c'est que bien que ce courant-là se veut progressiste, c'est-à-dire de gauche, c'est quand je dis ça, je veux dire que les gens qui défendent le politiquement correct, pour eux, sont dans un genre de combat du progressisme contre l'obscurantisme. Pour eux, c'est juste une manière de faire en sorte que certaines personnes soient plus acceptées, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination. Tout ça, c'est des bonnes intentions. Mais bien que que la volonté, ce soit ça, la volonté, ce soit d'être une forme de progressisme social, en réalité, moi, je pense que ça nous ramène à une espèce de police des mœurs. Donc, c'est quoi une police des mœurs? C'est une genre de censure sociale autour de certains sujets qui deviennent tabous. Un peu comme, si vous pouvez vous l'imaginer, comme dans les années 60, où cette espèce de police des mœurs-là rendait impossible la discussion sur la sexualité et bannissait du discours public toute cette thématique-là. Donc, tu sais, ne pas dire certains termes. Puis, tu sais, les vieux, par exemple, les très vieilles personnes utilisaient le terme « les fondements ». C'est quoi ça, les fondements? Ben, c'était leur vagin. C'était le mot qu'ils utilisaient parce que c'était pas beau d'utiliser le mot vagin en public. Donc, il y avait une forme de politiquement correct à cette époque-là, mais qui était autour des tabous sexuels, qui était autour de certains thèmes comme ça. Donc, la sexualité, la maladie, il y avait toutes sortes de tabous qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais il y avait une forme de politiquement correct qui existait à cette époque-là. Puis, c'était entretenu par qui? C'était entretenu par les mouvements réactionnaires. Et puis, les mouvements progressistes à cette époque-là voulait s'émanciper de cette censure-là, de cette censure sociale, de ces tabous, tu sais, penser à tout le discours là, psychanalytique, tout le discours néo-marxiste de l'époque, tu sais, il faut la libération sexuelle, il faut ci, il faut ça. C'était pourquoi? C'était pour enlever cette espèce de chape de plomb-là qui pesait sur les gens qui avaient un discours différent des autres. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est penser à toutes ces cette espèce d'histoire complètement archaïque puis débile de l'interdiction des sacres en ondes radio puis à la télé. Donc si par exemple quelqu'un fait une émission de radio puis là il dit ouais lui il a dit telle affaire, c'est-tu que c'est innocent ça? Puis là il y a quelqu'un qui entend ça, il peut faire une plainte au CRTC puis dire ah mais il a sacré en ondes, t'sais, il a sacré en ondes, on arrive en 2020. Vous rendez-vous compte, c'est comme si on vivait sous le joug d'une espèce de pouvoir religieux qui est là puis qui est chargé de dicter qu'est-ce qui est moralement acceptable, qu'est-ce qui est moralement inacceptable comme propos sur la place publique. Puis ça me paraît complètement délirant. Puis je pense qu'à vous autres aussi, ça paraît un peu étrange. Donc le politiquement correct donc a eu comme effet de remplacer certains termes, donc par exemple le terme infirme a été remplacé par handicapé puis progressivement par personne souffrant d'un handicap physique ou mental, non-voyant a remplacé aveugle, ou à l'époque on disait des fois invalide, par exemple personne démunie a remplacé nécessiteux ou pauvre. Après ça, on a commencé à utiliser le terme, par exemple, afro-américain au lieu de dire noir. Après ça, on a commencé à utiliser le terme migrant au lieu d'immigré. Donc, une personne avant, c'était pas, ça n'a jamais été un mot négatif. On disait, ben oui, c'est un immigré. C'est-à-dire qu'il a immigré au Canada. C'est un immigrant. Puis là, maintenant, on a dit, non, c'est ça, on dira plus immigrant, on va dire migrant. Puis là, tu te dis, OK, pourquoi base? Parce que ça, le mot sonne mieux, ça a l'air plus positif. Même chose dans le monde de l'emploi, les congédiements, les licenciements, on a commencé à retirer ce langage-là, on a commencé à appeler ça des mesures d'ajustement. On doit faire des ajustements dans l'entreprise. Bon, ça concrètement, ça voulait dire colisser dehors 3-4 personnes, mais on va appeler ça des mesures d'ajustement, tu sais, pour pas avoir de l'air trop sans cœur, pour pas avoir de l'air de blesser des gens. Puis, une opinion que j'ai trouvée très intéressante concernant le politiquement correct, c'est dans un article publié dans le Figaro en 2016 d'un philosophe qui s'appelle Dominique Lecourt, donc c'est un philosophe français là, assez vieux, et lui il disait, je le cite, « Le politiquement correct est une rhétorique de dissuasion, un moyen d'intimidation qui laisse penser qu'il existerait une pensée unique, une voie droite par rapport à laquelle nous devrions tous être jugés. Le politiquement correct favorise le retour de toutes les violences. » C'est intéressant son propos là-dessus parce qu'il dit d'une certaine manière que le politiquement correct, c'est vraiment une manière de discréditer le discours de quelqu'un, la façon d'être. Par exemple, là, si quelqu'un va dire « Bon, OK, on est 100% d'accord avec ce qu'il dit, il y a des super bonnes idées, il y a ci, il y a ça. » Mais s'il dit, par exemple, comme ça a été le cas de politicien dont j'oublie le nom, s'il dit, mettons, que telle personne est mentalement déséquilibrée, ben, on va dire « Ah, mais ça se dit plus, ça, mentalement déséquilibrée. Il aurait fallu que tu dises elle souffre d'une pathologie ou elle est affligée d'un problème psychologique quelconque. » T'sais, mentalement déséquilibrée, on dit plus ça. Mais là, alors que c'est, t'sais, les termes cliniques, des fois, ça peut être encore bon. Je comprends que c'est pas nécessairement fin, mais la réalité, c'est est-ce que c'est vrai? Parce que c'est ça, d'une certaine manière, le problème, c'est que c'est une des accusations qui est souvent faite à l'idée du politiquement correct, c'est qu'on remplace des mots qui désignaient quelque chose par des mots qui ne désignent plus la même chose. Dans le cas, je sais que ça, c'est un exemple qui a fait souvent controverse, mais dans le cas, par exemple, des sourds. Mais si vous dites quelqu'un, les sourds, eux, savent ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'entendent pas. Ils ont pas l'ouïe, ils n'entendent pas, donc ils sont sourds. Mais quand ils ont commencé à dire les malentendants, par exemple, ou les gens souffrant de dysfonction, là, de l'audition, dépendant de même, ben là, ça désigne autant la personne qui entend un peu mal, un peu ce qu'on appellerait dans le temps un sourd d'oreille. T'sais. Bon, mais ça, les gens qui sont sourds disent « Non, mais t'as peu, là. » Nous autres, on n'est pas comme eux autres, là. Nous autres, on est vraiment des gens qui sont sourds, c'est-à-dire qu'on n'entend rien. Eux qui sont là, ils ont juste eux autres. Le problème peut se régler par un appareil ou par une meilleure concentration, par exemple, ils vont entendre ou ils peuvent trouver des moyens de s'en sortir beaucoup plus facilement que nous. Donc, le terme malentendant ne désigne pas la même réalité que le terme sourd. Puis ça, on pourrait décliner cet exemple-là. Dans n'importe quel terme utilisé qui souvent désigne autre chose que ce qui est censé désigner. Un dernier point qui me semble très intéressant qui est soulevé par ce gars-là dans l'article de 2016, c'est que Lecourt dit que le politiquement correct va installer une forme de suspicion systématique, hein, de méfiance généralisée. Puis là, je le cite vraiment dans le texte. Puis ça me paraît vraiment un point très important de la discussion, puis c'est là-dessus que je vais terminer, c'est-à-dire que le politiquement correct, ce que ça a comme effet pervers, c'est que ça laisse sous-entendre que quelqu'un, par exemple, qui dénoncerait l'utilisation de certains mots, de dire, ben là, tu sais, maintenant, il y a un bout à épurer le langage, mais ce que ça fait, c'est que ça jette sur lui une espèce de soupçon. C'est-à-dire que, ah ouais, toi, tu veux, t'es contre ça, le fait de plus utiliser le terme, je sais pas, moi, migrant. Ah ouais, t'es contre ça, t'aimerais mieux rester avec l'ancien mot qui était immigré, donc c'est la preuve que si t'aimes pas ça, c'est que t'es intolérant, donc t'es intolérant envers les immigrants, donc t'es contre l'immigration, donc t'es raciste. Donc c'est ça, c'est que ça installe une espèce de... Alors que la personne peut dire, ben là, c'est juste que le vrai terme, c'est immigré. Il n'y a pas de migrant, ça a été inventé il y a 10 ans. Avant, ce mot-là n'existait pas. Puis il n'y a pas de problème. Là. Oui, ça prend des immigrants, puis c'est comme ça qu'ils s'appellent. Mais pourquoi vous avez enlevé une partie du mot pour en créer un nouveau, pour essayer de, de, de rendre ça, tu sais, c'est comme, à un moment donné, quelqu'un qui passe les frontières de manière illégale. Si vous, là, vous partez, vous en allez envers Stansted, vous traversez à pied aux douanes sans passer par le douanier, qu'est-ce qui va arriver? On va vous arrêter, mais on va dire vous avez traversé illégalement la frontière. Donc, quelqu'un qui traverse illégalement la frontière, c'est quelqu'un qui commet un crime, d'une certaine manière. C'est pas un crime grave, mais c'est un crime. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'illégalité. Ben là, pour épurer ça, pour essayer qu'il n'y ait pas de discrimination, on va dire « Ah, c'est quelqu'un qui est en situation irrégulière. » Ben là, tu sais, situation irrégulière, c'est toute cette affaire-là. Puis le point de Dominique Lecour est excellent là-dedans, c'est que jusqu'où ça peut aller dans le discours, jusqu'où on peut être complètement épuré par rapport à ça, puis tu sais, ça crée toutes sortes de problèmes à un moment donné de pourquoi avoir un discours comme ça, tu sais, pourquoi aller aussi loin là-dedans, puis surtout, c'est vraiment l'effet pervers que ça a, c'est que ça dénature la manière dont on désigne les choses, puis ça rend, ça jette sur des personnes des suspicions qui devraient pas, qu'on devrait pas avoir, c'est-à-dire qu'on devrait pas partir du principe que si les gens s'expriment pas à 100% de la manière dont ça a été dicté par les bien-pensants, par les gens qui désignent c'est quoi la morale publique, si cette personne-là s'exprime pas à 100% comme ça, ben c'est qu'elle est un peu suspecte, est un peu intolérante, est un peu probablement misogyne, est un peu raciste. Ben là, à un moment donné, faut revenir à la raison là-dedans. T'sais, ce serait ça mon message, faut revenir à la raison. Puis l'exemple de Justin Trudeau nous le montre bien, je pense. Moi, je pense pas que Justin Trudeau soit raciste, je pense pas que Justin Trudeau ait aucun problème à ce niveau-là, puis j'ai rien contre ses positions nécessairement par rapport à ça, mais cet exemple-là est révélateur d'un gars qui passe toute sa vie. Là. Toute sa vie n'est basée que sur l'image de « oh oui, je suis féministe, oh oui, je suis tolérant, oui, j'aime les immigrants, j'aime si j'aime les homosexuels, j'aime toutes les minorités, j'aime tout le monde, je veux pas être... Oui, 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 je suis tolérant, je suis le maître de la tolérance. » Et puis un jour, bon, on découvre que une fois dans sa vie, ou deux, trois fois dans sa vie, il a oublié de jouer le rôle de ce personnage-là, tu sais, le Monsieur Tolérance. Un moment donné, il a oublié qu'il était Monsieur Tolérance. Il a fait ce qu'on pourrait appeler peut-être une petite erreur de jugement. Puis là, ben, ça va le suivre probablement une partie de sa vie, ou en tout cas, ça a fait le tour de la boule, là, cette histoire-là. Ne pensez pas que c'est anodin, ça a fait le tour de la boule. J'ai vu ça dans la télé australienne, j'ai vu ça aux États-Unis, j'ai vu ça en Allemagne, j'ai vu ça partout. Là. Ben, c'est ça. La morale de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, à vouloir administrer aux gens la médecine du politiquement correct, ben un jour, ça se peut que tu goûtes à ta propre médecine. C'est plate, mais c'est ça. Ça fait le tour pour moi pour ce podcast-là. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre podcast. J'espère que ça vous intéresse. Ceux qui ont des commentaires, Franck, à radiopirate.com. Vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, sur Podkicker, sur toutes les plateformes que vous préférez. J'attends toujours vos commentaires, vos partages, évidemment. Laissez des notes sur les applications que vous pouvez en laisser. Puis on se revoit très bientôt. Ciao, bye.